France Inter, franceinter.com.
Prince, proconsul, gouverneur, nous allons connaître tous l'ère de la paix romaine.
Vous allez être armé chevalier.
Je t'adoube.
Les guerres sont terminées. Une seule terre, un seul roi.
Voyez-vous, monsieur Colbert, je m'établirai en ce château que le roi mon père a fait construire à Versailles.
Le roi !
La peste ! La peste !
Aimez-vous les histoires de rois et de reines ? Ou les hauts faits d'armes ? Ou l'amour courtois ?
Oui, majesté.
2000 ans d'histoire.
Sire, les Parisiens ont pris la Bastille.
C'est une révolte ?
Non, sire. C'est une révolution.
Le soleil d'Austerlitz.
Cette voie ferrée sera l'avenir des États-Unis.
Défendez l'Union soviétique. L'URSS, c'est la jeunesse du monde.
Ici, l'an.
This is the day and this is the hour. And it's a great day.
I have a dream.
Une affaire absolument irrespirable ici, dans cette rue Gay-Lussac.
On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'île.
Yes, we can.
C'était quelques-unes des archives que vous avez pu entendre dans 2000 ans d'histoire depuis 1999, puisqu'aujourd'hui, avec cette 1893e émission, nous fêtons son 10e anniversaire avec un joli cadeau, puisque nous avons appris ce matin que 2000 ans d'histoire est l'émission la plus podcastée de France et la plus écoutée sur cette tranche horaire. Mais nous ne sommes ni les seuls ni les premiers, et c'est l'objet de notre sujet d'aujourd'hui, l'histoire dans les médias, avec quatre invités, l'historien Marc Ferraud, le scénariste et documentariste Patrick Rothman, Pierre Baron, directeur de la revue Historia, et puis quelqu'un qu'il n'est vraiment pas nécessaire de présenter. Pendant plus de 50 ans, il a fait aimer et découvrir l'histoire à des millions de lecteurs, de téléspectateurs et d'auditeurs, dont les moins jeunes ont pu entendre pour la première fois sa voix et celle d'André Castelot dans la première émission d'Histoire à la radio. C'était il y a 58 ans, le 18 octobre 1951.
André Castelot présente La Tribune de l'Histoire, une émission d'Alain Decaux.
La Tribune de l'Histoire prend le départ sur les ondes de la radio. Curieux et excitant mélange que ce moyen moderne au contact du passé. Véritable aventure de l'esprit qui nous entraînera à travers quantité de mondes dans des élans que nous voudrions passionner.
Notre ambition est d'intéresser tout en servant l'histoire. Nous ferons en sorte que cette tribune soit la tribune de tout le monde, la plus ouverte, la plus accueillante possible. Car nous sommes tous la conséquence de l'histoire et sans que l'on s'en doute, chacun, en somme, est fonction d'un nombre illimité de péripéties historiques, bâties tantôt sur des hasards, tantôt sur la raison.
Alain Decaux, bonjour. Eh bien, c'est vous que l'on vient d'entendre il y a 58 ans dans la première tribune de l'histoire, la première fois que l'on entendait votre voix, mais pas la dernière, puisque cette émission est restée 46 ans à l'antenne et qu'en plus, vous avez fait ensuite des émissions célèbres aussi à la télévision. Est-ce qu'à l'époque, vous vous attendiez au succès et à la longévité de la tribune de l'histoire ?
Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que avec Colin Simard, qui était l'un des créateurs, malheureusement la maladie l'a empêché de continuer longtemps, il a été remplacé par Jean-François Chiappe, mais Colin Simard et moi, on adorait la radio. On avait le même âge, et on s'était dit un jour, bien sûr, il y a de l'histoire le matin, de bonne heure, c'est l'histoire des enseignants, c'est très bien, mais il n'y a pas d'histoire pour le public. Pour le public, et on devrait se mettre à la portée du public. Et on a l'idée de se présenter cette affaire-là, on l'appelle la tribune de l'histoire. André Castelot, consulté, accepte de monter en marche, et on mettra deux ans à être reçu. On demandait des rendez-vous à tout le monde. On était reçu rarement, mais quand on était reçu, on nous disait non, c'est pas une bonne idée. Savez-vous lequel a compris que c'était une bonne idée ? C'est Paul Gilson. Paul Gilson était un poète, mais aussi directeur général de la radio de l'époque, et c'était un homme qui a dit, mais si, il faut faire ça.
Bon, et écoutez, on ne le regrette pas. On ne le regrette pas parce que je peux vous dire quand même que même ceux qui n'ont pas pu parce qu'ils étaient trop jeunes ou pas nés du tout écouter cette émission, eh bien, beaucoup de gens sont venus à l'histoire grâce à vous, grâce à Castelot, grâce à d'autres émissions aussi dont nous allons parler. Alors, à l'époque, il faut rappeler que le succès était d'autant plus grand que vous n'aviez pas de concurrent. La télévision était quasiment inexistante et il n'y avait pas du tout de radio. Vous en ferez d'ailleurs à partir de 1956. Alors, en revanche, la presse consacrée à l'histoire existait depuis longtemps. Et là, je me tourne vers le plus vieux d'entre nous, puisqu'il a 100 ans depuis le 5 décembre dernier. Pierre Baron, bonjour.
Bonjour.
Alors, 100 ans, c'est évidemment, ce n'est pas votre âge. C'est celui de la revue que vous dirigez et dont j'ai d'ailleurs entre les mains le fac-similé du premier numéro. Il date du 5 décembre 1909. Et alors, il y avait des signatures prestigieuses d'historiens et prestigieux pour l'époque, Ludovic Halévy, Ernest Lavisse, les frères Goncourt. C'était une revue destinée au grand public. Elle n'avait pratiquement pas de concurrents et elle était destinée au grand public. Est-ce qu'elle l'est restée ?
Elle est restée, assurément.
L'objectif, c'était quoi ? La vulgarisation. C'est ce qu'on reproche souvent à l'histoire telle qu'elle est traitée dans les médias.
Oui, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire de façon immodeste. C'est comme disait Alain Decaux à l'instant, c'est se mettre à la portée du public. En tout cas, depuis 100 ans, c'est ce qu'on essaye de faire. Mmh. Pas moi, personnellement, parce que comme vous, j'y étais pas au début, ni Alain, d'ailleurs. Mais
qui c'est vous ce a rejoint. Il a signé un nombre considérable d'articles dans Historia.
Ah oui, tout à fait. Mmh. On publiait même, le mois suivant, les écrits, en fait, des émissions d'Alain Decaux, quand il les faisait à la télévision.
Est-ce que le jeune historien que vous étiez, quand vous étiez un jeune historien, Marc Ferro, vous l'êtes toujours très jeune, un tout petit peu moins, est-ce que vous lisiez Historia ? Est-ce que vous écoutiez la Tribune de l'Histoire ?
Non.
Non ?
Honnêtement, je dois dire que non, je l'ai lu plus tard.
Personne n'est parfait, monsieur Ferro.
Mais n'y voyez pas de l'opprobre, parce que quand j'ai commencé à faire de la télévision, je me suis caché de mes maîtres. Sans doute, Renouvin m'avait dit « Passez d'abord votre thèse et après on en parlera ». Brodel m'avait dit également « Oui, mais attention, attention, vous savez, pour votre carrière ». Et lorsque j'ai réalisé mon premier film avec Solange Péter sur la Grande Guerre, en 1964, à personne, je ne l'ai dit, à l'école des hautes études, et je rasais les murs. D'ailleurs, acte manqué, je n'ai jamais gardé copie de ma première participation à la télévision, d'aucune de mes émissions. Par contre, le moindre tiré à part de la revue historique de 1900, je ne sais plus, je l'ai toujours, ce qui prouve que j'ai gardé la crainte de mon ordre.
Et vous, Patrick Rothman, avant de faire de la télévision, on en parlera tout à l'heure, est-ce que vous regardiez des émissions de télévision ? Est-ce que vous lisiez des magazines d'histoire ? Qu'est-ce qui vous a amené à l'histoire ?
Je regardais les grands documentaires historiques, oui. Frédéric Rossif dans les années 60. Dire que ça, ces grandes épopées en images avec des images d'archives, ça m'a beaucoup intéressé. Et après, quand j'étais étudiant et un peu après, je regardais beaucoup, tout le temps d'ailleurs, l'émission de Marc Ferro sur Arte, sur les archives. Oui.
On va en parler, mais bon, tout à l'heure, on a entendu la Tribune de l'Histoire d'Alain Decaux et André Castelot et Jean-François Quiappe, effectivement, qui est venu après. Et puis, la télé n'existait pas. Elle commence sérieusement à se développer dans les années 60. Mais avant même que ce développement, vous faites de la télévision aussi, Alain Decaux. C'est la caméra Explore le temps, réalisée par Stelio Lorenzi. C'était assez extraordinaire. Tellement prenant d'ailleurs, tellement réaliste, que je crois que vous avez provoqué avec une émission sur les Cathares une véritable révolte en Occitanie.
Je crois que cette révolte existait déjà. Mais la
Russie vous l'avez réveillé.
A un grand encouragement. À Carcassonne, à la fin de la diffusion, c'était en deux épisodes, la ville de Carcassonne est sortie entièrement dans les rues pour acclamer non pas l'émission, mais les Cathares.
Alors, il y avait cette émission, il y a eu également Alain Decaux raconte. Là, vous étiez seul devant une caméra. Vous m'avez raconté un jour que vous parliez sans notes dans les conditions du direct, ce que littéralement aucun réalisateur d'histoire ou producteur d'histoire oserait faire. Alors, vous n'utilisiez pratiquement ni dans la caméra Explore le temps, ni dans la tribune de l'histoire. C'était une fiction qui était présentée et discutée par des historiens. Il y avait très peu d'archives. Ce qui est ces archives qui allaient révolutionner l'histoire dans l'audiovisuel, comme l'a fait justement Marc Ferraud pendant 12 ans dans l'histoire parallèle, où l'on pouvait voir les actualités de la Deuxième Guerre mondiale commentées 50 ans après par un témoin et par vous-même, Marc Ferraud, d'abord sur la 7, puis sur Arte, où on vous écoute en 1994 commenter 50 ans après les actualités de la semaine du 19 mars 1944.
Après 2 mois de combat, non sans mal, les Alliés ont réussi à se rendre maîtres de la région de Monte Cassino, dont ils avaient sous-estimé l'importance stratégique. Mais qu'en est-il à cette date de la résistance française, où la milice de Darnan et les Allemands sont en train de cerner les combattants du maquis des Glières? Eh bien, on va voir maintenant les actualités françaises et comment elles présentent les événements de Haute-Savoie.
En Haute-Savoie, des opérations de police de grande envergure sont entreprises contre ceux qui faisaient régner sur la région une véritable terreur. Les patrouilles parcourent les rues. Les GMR ont établi de nombreux contrôles, là même où il y a peu de temps le banditisme régnait en maître. 60 meurtres par mois, 30 attentats quotidiens, telle était la moyenne. Les journalistes et les GMR montent vers la clairière où furent découverts les corps des inspecteurs mis à mort par les terroristes.
Et c'était les actualités en France occupée en 1944, les résistants des Glières qualifiés de bandits ou de terroristes. Ça montre à quel point, Marc Ferraud, l'actualité, ce n'est pas de l'histoire, c'est souvent de la propagande, on vient d'entendre. Et pourtant, les actualités, les archives telles que celles qu'on vient d'entendre sont très utiles à l'historien et à l'historien dans les médias.
Oui, d'ailleurs, comme Patrick Rothman, c'est Rossif qui m'a donné le goût des archives. Je regardais quand même Alain Decaux, il ne faut pas croire. Et ce qui me plaisait dans Alain Decaux, je dis il ne faut pas croire parce qu'on qualifiait quelquefois ses émissions de la petite histoire. Mais il y en avait...
Pour un grand public.
Comment ?
Pour un grand public.
Sans doute. Mais en fait, ce qu'il a introduit et qui m'avait séduit, que j'ai repris dans l'histoire parallèle, c'est qu'il y avait souvent un dialogue de gens qui n'étaient pas d'accord dans ces émissions. Et dans l'histoire parallèle, c'est ce que nous avons fait, puisque pour ces activités-là, nous avons des activités françaises et aussi allemandes ou anglaises qui font le contrepoint.
Il y avait un témoin dans cette émission qui était Métral, qui était un ancien rescapé des Glières. Je dis du Vercors parce que vous-même, vous me l'avez dit un jour dans une émission consacrée au Vercors, mais personne ne le savait, vous avez été vous-même dans un maquis qui était celui du Vercors.
Oui, mais pour en revenir aux Glières, ce qu'il y avait d'intéressant, c'était d'entendre justement ces mots de terroristes, ces mots de bandits, etc., qui étaient quand même pas seulement de la propagande, puisque c'est une petite confession. Lorsque j'ai quitté le Vercors et que j'ai revu une partie de ma famille, ma tante, qui m'aimait beaucoup, m'a dit « Alors Marco, t'es devenu un terroriste. » Et pourtant, Dieu sait si elle s'était réfugiée en zone libre. C'est dire que la propagande de Vichy et des Allemands était très prégnante et que les gens avaient tellement peur de représailles qu'ils s'identifiaient souvent à la parole du pouvoir.
Pierre Baron ?
Oui, deux choses. C'est dire si, comme disait l'autre, l'histoire elle est toujours écrite souvent par les vainqueurs, et que le terroriste du jour, c'est le résistant du lendemain, ou le héros du lendemain, déjà, et d'une. Et la deuxième, c'est une réflexion par rapport à ce que disait Marc Ferraud, à la fois sur ce qu'il a appelé lui-même son ordre, c'est-à-dire l'université, et sur ce qu'on qualifie de petite et grande histoire. Moi, je suis convaincu, comme Alain Decaux, je pense qu'il n'y a pas de petite histoire, ni de moyenne histoire, ni de grande histoire. Il y a l'histoire tout court. Et que la petite histoire pour le grand public et la grande histoire pour les universitaires, trop peu pour moi, merci.
Alain Decaux.
Je voudrais dire à Marc Ferraud, qui sait que je l'admire, que je l'aime depuis très longtemps, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment des gens qui venaient discuter l'émission. Je parle de la caméra sur le temps. Mais nous avions compris, Castelot et moi, que comme c'était ce qu'on appelle une fiction, et ça n'en était pas une, il y avait des options à prendre. Et on a compris ça tout de suite, puisque tout de suite après l'émission, il y avait Castelot et moi qui présentait, qui discutait de la véracité ou non de cette émission. C'était nous-mêmes qui nous discutions. Quant à Alain de Goraconte, il n'y avait pas de débat, puisque j'étais tout seul.
Patrick Rothman, les archives aussi, vous les avez beaucoup utilisées dans vos documentaires. Je pense par exemple aux brûlures de l'histoire, hein, qui ont déjà quelques années. Justement, cette utilisation des archives, elle nécessite quand même la mise en perspective par un historien. On ne peut pas les prendre au premier degré. Si on croit ce que disent les actualités de 1944, d'ailleurs, on peut comprendre qu'à l'époque, étant accablé par ces actualités de 1944, les Français soient restés longtemps, pour beaucoup d'entre eux, pétainistes.
Oui, il y a une grande difficulté quand on fait de l'histoire à la télévision avec les images, c'est que l'histoire est horriblement complexe et que l'image finalement est terriblement réductrice. Et vous devez vous débrouiller avec cette contradiction que vous devez laisser supposer aux téléspectateurs que l'histoire que vous lui racontez, elle est complexe, elle est différente, elle peut être vue avec différents points de vue, différentes sensibilités, et finalement, les instruments que vous avez pour faire passer cette complexité, cette difficulté, ces contradictions, ils sont assez simples. Finalement, c'est une image qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être une image de propagande, ça peut être une image utilisée. On a des exemples, par exemple, d'images d'archives, les mêmes, qui sont utilisées avec des commentaires différents et qui disent exactement le contraire. Bon, et donc, il y a une responsabilité qui est très, très grave, importante, c'est de dire, dans le choix des images, dans le choix des archives, dans la manière de les mettre en perspective, justement, de leur donner du sens, la compréhension, il y a là une nécessité d'une très grande honnêteté. Je ne crois pas à ce terme qu'on utilise tout le temps d'objectivité. Pour moi, l'objectivité en histoire, ça n'existe pas forcément.
Il y a une tendance quand même. On ne peut pas se dire je vais essayer de faire passer un message.
Il y a l'honnêteté, il y a le respect des faits, il y a le respect des images. Mais moi, quand je fais un film, que ce soit été 44 ou Un mur à Berlin, c'est un film, je m'excuse de le dire, de Patrick Rothman. J'ai ma subjectivité. C'est moi qui choisis les images, c'est moi qui écris le commentaire, c'est moi qui choisis d'interviewer tel ou tel témoin. Je construis un film. Et c'est là où il y a besoin, justement, de dépasser la mémoire, de dépasser les archives et d'arriver à une compréhension historique des faits.
Les archives, c'est pas seulement, il y en avait bien avant la radio et la télévision, c'est pas seulement des archives audiovisuelles, ça peut être tout simplement la presse du 19e siècle, il est évident qu'elle jouait le même rôle et qu'il faut la manier avec des pincettes, ça peut être aussi les chroniqueurs du Moyen-Âge qui encensaient bien entendu les princes à la solde desquels ils étaient. Même Hérodote, le premier des historiens il y a 2500 ans, quand il faisait de l'histoire, ça voulait dire enquête, hein, je crois, eh bien il disait que c'était en fait pour qu'on n'oublie pas les événements du passé, mais qu'on n'oublie pas non plus les faits glorieux des Grecs et des barbares. Donc c'était une histoire un petit peu orientée, elle aussi. Elle n'était pas très, très subjective. Alors, autre élément nécessaire, bien entendu, l'historien, ce sont les témoignages que vous utilisez, comme ceux que vous avez utilisés justement Patrick Rothman dans des documentaires, comme celui justement qui a eu un succès considérable le mois dernier, c'était Un mur à Berlin diffusé à l'occasion du 20e anniversaire de sa chute.
Pendant près d'un demi-siècle, depuis la chute du nazisme, la porte de Brandebourg a été le symbole douloureux d'une ville mutilée, d'un pays tailladé, d'une Europe fracturée, d'un monde divisé.
Nous nous donnions rendez-vous. À telle heure, nous serons à tel endroit. Placez-vous de l'autre côté. Donc on se faisait des signes de la main. Inutile de dire que tout cela était fort triste.
Le 9 novembre
1989, le monde est sous le choc. Le mur de Berlin vient de tomber. 1h30 d'images d'archives sur cet événement majeur de l'histoire du XXe siècle. Depuis la chute du nazisme jusqu'à l'effondrement du communisme. Reconstruire le mur, le temps d'un documentaire signé Patrick Rothman pour le 20e anniversaire de cet événement, lundi à 21h.
Et c'était la présentation donc de votre documentaire, Patrick Rothman, c'était il y a un mois.
La
bande-annonce. Mais l'utilisation, parce qu'il y en avait beaucoup, les témoignages, évidemment, là encore, on est dans la subjectivité. Il faut les manipuler avec autant de précautions, bien entendu, que les archives sonores.
bien entendu, il faut faire extrêmement attention avec ces témoignages. Et en même temps, ils sont irremplaçables. Ils apportent une dimension humaine, intime, charnelle de l'histoire. L'histoire, ce n'est pas simplement des chefs, des généraux, des hommes d'État qui décident, etc. C'est des hommes qui subissent l'histoire, parfois à la fond, qui souffrent, des populations, etc. Et moi, je trouve, par exemple, dans l'extrait qu'on a entendu, ou assez mal entendu, mais en tout cas, il y a cet Allemand, ce Berlinois, qui racontait comment donner rendez-vous à sa famille par-dessus le mur, il faisait des signes. Ce qu'il dit est terriblement émouvant, évidemment subjectif, mais pour moi, cette dimension est indispensable. C'est-à-dire de mêler, pour le coup, la petite histoire vécue aux grands événements de l'histoire, ça me paraît une démarche indispensable.
Mais c'est parce qu'elle est là, l'histoire vécue, qu'on peut mieux la comprendre, parce qu'elle est faite par des hommes et avec leurs émotions. Alain Decaux ?
Oui, je voudrais simplement, en quelques mots, vous raconter une histoire. C'est le cas de le dire. Je fais un jour une émission sur la mort de Darlan, dans Alain Decaux raconte. Je m'entoure de tout ce qui existe avant de prononcer mon discours. Mais là, dans les jours qui suivent, viennent plus de 100 lettres. C'est là le rapport entre l'audiovisuel et l'histoire. 100 lettres de gens qui m'écrivent « J'étais à tel endroit dont vous avez parlé, j'ai vu cela. » 100 lettres que j'ai utilisées dans un livre ensuite, 100 lettres qui n'auraient jamais existé parce que l'un de ces mes correspondants me dit « Vous savez, j'ai raconté ça à ma famille plusieurs fois. » J'ai senti que c'était trop. J'ai dit, ça n'intéresse personne. Et ben, vous racontez cette histoire. Alors, je vais lui écrire. C'est ainsi que j'ai le dialogue de l'assassin qui a été par un témoin. Et puis, j'ai gardé toutes ces lettres. Et j'ai fait dans un livre le rassemblement.
Mais ça prouve, Alain Decaux, le succès considérable des émissions d'histoire en général. Ah, oui. Moi, je ne m'attendais pas à un tel succès pour cette émission, mais on est porté par une espèce de vague, de passion pour l'histoire que partage un plus grand nombre d'auditeurs. C'est d'ailleurs quelque chose qui intéressait déjà, que constatait déjà le magazine Historia en 1980 pour la sortie de son 400e numéro.
L'enseignement de l'histoire. Si l'on en croit un sondage de la Sofresse, 62% des Français considèrent cette matière, l'histoire, comme importante. Une impression qui est confirmée par la bonne santé du mensuel Historia qui sort son numéro 400 et qui est lu chaque mois par 2 millions de lecteurs.
Ce 400e numéro d'Historia, deux grandes signatures que l'on va retrouver tout de suite, Alain Decaux, Emmanuel Leroy-Ladurie, un sommaire qui symbolise un peu ce que veut faire Historia depuis maintenant 35 ans, jouer les intermédiaires entre la science de l'érudit et l'engouement toujours plus grand du public pour l'histoire. L'histoire avec un grand H, et qui, selon l'association des professeurs en histoire-géographie, est mal enseignée dans les écoles. Toute notion de continuité a disparu, disent-ils, les hommes clés et les événements ont déserté les manuels d'histoire. D'où le débat qui s'ouvre ce soir. L'histoire à l'école s'écrit-elle réellement au passé?
C'est une matière que l'on n'apprend plus aux jeunes élèves, je cite, a déclaré récemment avec un certain fracas l'historien et académicien Alain Decaux. Les enseignants sont nombreux aussi à déplorer que l'histoire soit devenue une simple matière d'éveil dans les classes primaires et non plus une matière principale.
Alors là, on était en 1980, on a l'impression du débat aujourd'hui sur, par exemple, la réforme des programmes qui consiste à faire disparaître l'histoire des programmes de Terminal S. Est-ce que le succès des émissions d'histoire, au fond, ou des magazines d'histoire comme le vôtre, Pierre Baron, n'est pas lié, ou en tout cas il est inversement proportionnel au fond à la manière dont on déplore qu'elle soit enseignée et même littéralement éliminée dans certaines sections.
Oui, c'est même assez consternant de voir à quel point la télévision, la radio, j'en veux pour preuve encore la série du mois de septembre Apocalypse sur France Télévisions, qui a été un remarquable succès, le gouffre, l'abîme qu'il peut y avoir entre l'engouement du public. On parlait tout à l'heure dans la bande là, de 60%. On a fait un sondage en janvier qui montrait que 80% des Français étaient attachés à l'histoire et 66% d'entre eux, les deux tiers, étaient attachés à ce que leurs enfants s'intéressent à l'histoire. Donc supprimer l'histoire en terminale S, soi-disant pour réhabiliter des classes littéraires, comme si les scientifiques n'étaient que des machines à calculer, me paraît une ineptie de plus.
Il y a plus que ça. Hein. On vous a entendu tout à l'heure dans l'archive, Alain Decaux, dire que nous sommes tous des conséquences de l'histoire. Or, il se trouve qu'on est en train de la réduire et qu'en même temps, on débat de l'identité nationale en privant les Français au fond de leur histoire. Cette réforme, qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, je trouve que, comme tout le monde, ce n'est pas une bonne réforme. On a parlé de 1980. En un mot, il y a eu déjà un combat, un débat, parce que depuis 12 ans, en primaire, en CM1, CM2, il n'y avait plus d'histoire. L'histoire n'était plus obligatoire. Et il y a eu un soulèvement énorme. Toute la presse de l'humanité arrive à Rolles. Parce que j'étais intervenu, là aussi, à la radio et à la télévision, et on m'a donné raison. Le ministre de l'époque a rétabli l'histoire en CM1, CM2, l'histoire de France chronologique.
Marc Ferraud.
Moi, je pense que c'est une absurdité d'avoir procédé, je ne dis pas à la réforme dans son ensemble, mais simplement au fait de supprimer l'histoire en sciences. Parce que s'il y a une année où on devrait s'appuyer sur l'histoire, c'est bien la dernière année du secondaire. Parce que là, les jeunes gens vont entrer dans une nouvelle phase de leur vie, soit en fac, soit dans une école, soit dans un métier. Et c'est l'histoire qui peut leur apprendre, en quelque sorte, à comprendre le monde qui est autour d'eux. Simplement, il ne faudrait pas recommencer, peut-être, à reprendre un récit de telle ou telle période. Il faudrait prendre l'histoire sous un autre angle, par thème. Par exemple, l'histoire des métiers et des professions, pour voir où on en est. Ou encore, comment fonctionne le fédéralisme et le gouvernement des provinces en France, en Espagne, en Allemagne. Que sais-je ?
Moi, j'étais satisfait de la façon dont était enseigné dans les livres d'histoire des années 50-60.
J'étais enseigné, mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, elle répond aux besoins de la société,
du moins en
fin de carrière.
Patrick Rothman.
Oui, moi, j'ai pas mal de contacts avec des enseignants d'histoire. Je vais souvent dans les collèges, les lycées, présenter mes films. Et moi, je suis très frappé par la demande qu'il y a de la part des enseignants et encore peut-être plus des élèves de voir des images, de voir des archives. Et je trouve absolument incroyable que dans l'enseignement de l'histoire, la place de l'image, de l'archive soit aussi faible. Alors je sais qu'il y a sûrement des problèmes d'équipement, etc. Mais c'est un instrument extraordinaire, l'image, pour enseigner l'histoire. En tout cas, c'est un point de départ, ça permet de discuter, de développer, et c'est pratiquement absent de l'enseignement de l'histoire. Et donc ça, c'est un instrument formidable qui n'est pas utilisé. Oui.
C'est parce qu'on nous a appris à analyser les textes et on ne nous a pas appris à analyser les images. Mmh. Et c'est pour ça que mes collègues sont souvent paralysés, je le sens, devant les films, alors que les plus jeunes, souvent, sont plus aptes parce qu'ils ont une plus grande pratique, disons, à analyser des images que les adultes, que ça pétrifie les adultes, d'une certaine façon.
Merci Marc Ferraud, merci Alain Decaux, merci Patrick Rothman et Pierre Baron d'avoir participé à ce numéro spécial de 2000 ans d'histoire, 10 ans après que cette émission a été mise à l'antenne par Jean-Luc Hesse en 1999, quand il était directeur de France Inter. Merci à tous les invités, à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission depuis 10 ans. Merci aux techniciens de Radio France et à l'équipe actuelle de 2000 ans d'histoire. Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Franck Olivard et Anne Kobilac. Et enfin, merci à tous ceux dont certains sont présents ici, qui nous écoutaient et qui êtes de plus en plus nombreux à le faire depuis 10 ans. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le numéro 2 du régime naziste, une émission qui était prévue avant-hier, Hermann Göring.